14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec toujours la même mission, vous informer, vous montrer que le monde change. Parfois, ces révolutions, nous les subissons, parfois nous les accompagnons. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec vous dans La France bouge. Ici, vous le savez, c'est vous qui êtes à la une et on va s'attacher à vous le montrer. Avec des startups qui osent, La Belle Chaussette a lancé une collection recyclée pendant le confinement. Elle est en pleine campagne Ulule et sera avec nous. Comment aider les restaurateurs et les hôteliers avec Skit, une solution qui permet de passer commande et de payer depuis son smartphone. Elisabeth Assayag nous dira tout. Comment le BTP se remet-il au travail? Les chantiers redémarrent, mais avec de nouvelles normes. Et puis, nouveau rendez-vous pour vous aider avec Nathalie Carré, chargée de mission entrepreneuriale à la CCI France. La crise vous a mis à mal, vous avez besoin d'aide ou de conseils. Venez, c'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Et si vous voulez nous contacter, vous le savez, il y a évidemment les réseaux sociaux, vous vous en êtes emparés, mais il y a aussi l'adresse e1-lafrancebouge@europe1.fr. Une équipe est derrière pour trier, pour regarder, pour étudier vos dossiers, vous répondre. Une équipe est aussi à mes côtés, au micro. Elisabeth Assayag est là. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous.
Et on est ravis parce que c'est le grand retour du coach aujourd'hui qui va nous accompagner. Toute la semaine, c'est enfin. Riyad Boulanoir qui est avec nous. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous revoir.
On est ravis nous aussi.
On est trop manqué, c'était
pareil.
Trop dur.
Eh ben, c'est pareil. Créateur, entre autres, du compte Nickel, de la méthode Boulanoir. Il y a encore des choses qui sont en train de se monter, Riyad, on en parlera. Avec nous aujourd'hui, il y a aussi une entreprise qui a lancé un tout nouveau produit pendant la crise. Alors c'est vrai que c'est un pari risqué. Bonjour Guillaume Degnaud.
Bonjour Raphaël.
Vous avez 26 ans et vous êtes le cofondateur de La Belle Chaussette. Vous êtes en pleine campagne en ce moment de crowdfunding sur Ulule pour vos chaussettes 100% recyclées. Était-ce le bon moment de se lancer? On vous écoute. Vous avez 1 minute 30.
Merci beaucoup Raphaël. Alors La Belle Chaussette, au départ, c'est une marque de chaussettes qui est dessinée par des artistes et fabriquée en France. Notre concept, c'était de créer un label qui réunit des artistes autour de nos chaussettes. Donc en fait, on se met au service des illustrateurs, des street artistes, des graphistes avec lesquels on collabore pour leur proposer un nouveau support de création et donc des chaussettes qui sont uniques, qui sont authentiques et c'est vraiment ce qui plaît à nos clients. On a aussi fait revivre des marques iconiques comme par exemple Lavage Thierry avec qui on a collaboré. Et comme vous l'avez dit, ces chaussettes, elles sont fabriquées en France dans une démarche locale. Et donc on s'est associé à Brousseau Textile qui est à côté de Limoges pour proposer des chaussettes de qualité, des chaussettes confortables. Mais on voulait aller encore plus loin et pendant cette crise, comme vous l'avez dit, on a lancé notre première collection de chaussettes recyclées qui est faite à partir de plastique recyclé et de vêtements usagés. Elle est disponible en précommande sur la plateforme Ulule. Donc on est déjà à 600 précommandes, presque 600 précommandes en une dizaine de jours. Et donc on vous invite à faire un pas pour la planète avec ces chaussettes recyclées sur ulule.com/chaussettes-planète ou directement sur notre site label-chaussettes.com.
Voilà pour le pitch. On va se tourner tout de suite vers Riyad pour voir ce qu'il en pense. Je disais pari risqué, c'est vrai qu'on est en pleine période de déconfinement. On s'est aperçu que certes, on n'avait pas forcément beaucoup dépensé pendant cette période-là, mais lancer une marque ou lancer un produit, c'est quand même un peu osé, non Riyad?
Ouais, mais je suis pas si sûr en fait, parce que les crises, c'est vrai qu'elles détruisent beaucoup de choses, mais elles créent aussi beaucoup d'opportunités. Et je suis sûr qu'il va y avoir une nouvelle économie qui va se créer, soit en prenant compte les contraintes environnementales, les contraintes sociétales. Là, sur l'idée des chaussettes d'artistes, là, je trouve ça très 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 original, parce que c'est quand même quelque chose d'assez banal, la chaussette qu'on a tendance un peu à cacher. Je trouve ça sympa comme support de. Je trouve ça original. Je suis moins convaincu du côté recyclé. J'ai peur qu'il soit un peu antinomique avec la notion de confort. Et puis j'ai une question. Justement. C'est ça coûte. Enfin voilà. A priori, hein, on me dit c'est fait en plastique. Alors j'imaginerais plus de la laine. Enfin des produits assez nobles. Alors, et pas recyclé, voilà, c'est peut-être la question que j'ai. Et puis j'ai une dernière question, mais j'ai compris qu'elles étaient confortables. J'ai une dernière question, c'est combien ça coûte?
Alors Guillaume, on vous écoute.
Merci, pour répondre à votre première question sur le confort, on a fait des tests. Et on ne voit pas la différence parce qu'en fait, on travaille avec une usine qui est spécialiste. Et le fil de plastique recyclé, ça va être du polyester qui va ajouter de la qualité au fil. Et on va retrouver ce confort grâce au coton des vêtements qui sont utilisés. Donc sur le confort, on ne voit pas la différence avec des chaussettes classiques. Exactement. Et ensuite, sur le prix, finalement, on ne va pas utiliser de matière première directement. On ne va pas sourcer le coton. Donc ça va être le processus va être différent, certes, mais sur le prix, on arrive à sortir une chaussette qui est vraiment aussi qui est du même prix que une chaussette classique. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment le fait de fabriquer en France sur le prix. Mais ça, nous, on était vraiment très attachés à garder une production locale, puisque c'est d'autant plus important aujourd'hui de favoriser une économie locale.
Ça, c'est une bonne chose, mais à la fin, est-ce que ça pénalise pas le prix? Et elles sont à combien, vos chaussettes, aujourd'hui?
Alors, elles sont à partir de 12 euros sur Ulule en précommande. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de stock. Donc, en fait, on les propose en précommande. Donc, on prend moins de risques à sortir cette collection en précommande. Et ce qui nous permet d'avoir une chaussette qui finalement, arrive à 12 euros, ce qui n'est pas si cher.
Ça reste raisonnable, un truc d'artiste, ça reste complètement raisonnable. Et puis au moins, ça permet de les trier en sortant de la machine. Moi, j'en ai que des noirs.
On reconnaît tout de suite les chaussettes Vache-Kiri, ça c'est certain. Ouais. Elisabeth.
Oui, moi je trouve que c'est bien avoir envie de créer de nouvelles chaussettes, c'est bien. Mais faites-nous un petit peu rêver, peut-être. Elles ressemblent à quoi? Elles sont colorées? Elles sont comment? Voilà, est-ce qu'on peut les imaginer pour pouvoir se dire tiens, moi je vais tout de suite aller sur Ulule et passer une précommande?
Alors en fait, donc il y a vraiment deux collections. Il y a notre collection d'artistes avec lesquels on collabore. Et donc ces chaussettes-là, on va chercher des artistes.
Elles sont très belles, faut le dire.
Moi j'ai été voir le site web, elles sont très belles.
C'est l'idée de la belle chaussette, c'est de créer des belles chaussettes. Mais
comme son nom l'indique.
C'est ça, exactement. Et donc on a des artistes qui font des choses très graphiques, qui sont très colorées. Et sur notre collection recyclée, en fait, on va avoir une chaussette qui est un peu plus classique, parce qu'on voulait vraiment proposer cette collection à un public, que ces chaussettes soient accessibles. Donc en fait, c'est vraiment deux gammes de chaussettes qui sont très différentes, mais qui sont complémentaires.
Et vous n'avez pas hésité? Vous n'avez pas du tout hésité, Guillaume? Vous vous êtes dit, on y va quand même, malgré la situation de crise sanitaire?
C'est ça. En fait, on a un petit peu hésité, parce que on se demandait si c'était bon moment, mais justement, en fait, on a été renforcés dans le fait de vouloir lancer cette collection maintenant, parce que c'est vraiment le moment d'agir quand on sait que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante aujourd'hui. On voulait vraiment faire un pas pour la planète et ce pas, on voulait le faire en chaussettes recyclées.
Eh bien, écoutez, on est convaincus, hein, je crois, Riyad, Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'ai envie. Il y en a une qui est rayée bleu et blanche avec un petit bonhomme et un cœur rouge. Bon, magnifique.
C'est Jolie Talk.
J'invite les auditeurs à regarder le site web, c'est très très original. C'est très très original, c'est vrai que ça donne envie, quoi.
En tout cas, la campagne est toujours en cours, donc si vous voulez aider la belle chaussette, eh bien c'est le moment. Merci beaucoup, Guillaume, vous nous donnerez évidemment de vos nouvelles ici à la France Bouge. Il est 13h17. Europe 1. Comment les hôteliers et restaurateurs vont-ils pouvoir se relever? L'innovation peut-être voler à leur secours. C'est ce qu'essaie de faire Skit et c'est la solution.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h20 sur Europe 1 et chaque jour, une solution avec vous, Elisabeth, et une réponse à un problème actuel lié évidemment à la crise que nous traversons. Aujourd'hui, vous nous parlez de Skit, S-K-E-A-T, une start-up qui peut résoudre beaucoup de problèmes pour les hôteliers et les restaurateurs quand ils ouvriront.
Tout à fait. Skit, ça existe depuis 18 mois. Et à la base, c'est pour faire gagner du temps aux barman ou aux serveurs qui passent 30 à 50% de leur temps à prendre des commandes, à encaisser des additions. Donc à la base, c'est destiné à ce public. Entre-temps, le coronavirus est arrivé et les lieux qui accueillent du public ont besoin et vont avoir besoin d'une solution de paiement efficace, rapide, sans contact et qui rassure à la fois le public et le personnel. Et donc cette solution Skit, elle est basée sur la technologie des QR codes. Elle permet aux clients, par exemple des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, des hôtels, tout ça quand ça va rouvrir, de ne commander et de payer leurs produits depuis leur smartphone en quelques clics en scannant un QR code et ainsi le client ne touche plus à rien et le risque est diminué. Bonjour Marc Sarfati.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci vous à avez... vous de me recevoir.
Ben non, c'est tout à fait normal. Vous avez 26 ans. Alors, c'est déjà bravo parce que c'est une très bonne idée, ce kit. Vous êtes une dizaine au sein de votre start-up. Alors, vous avez complètement adapté votre activité au moment où la crise sanitaire est arrivée.
Exactement, exactement. Alors, comme. Pour présenter un petit peu la solution, donc notre solution, vous l'avez déjà bien décrite, elle permet aux clients de pouvoir passer des commandes et les payer depuis leur téléphone sans télécharger aucune application. Et donc nos clients principaux donc sont des hôtels, des bars et des restaurants. Et donc, avant la crise, ce qu'on apportait beaucoup à ces établissements, c'était surtout, comme vous l'avez dit, une optimisation. Voilà, du gain de temps de productivité et aussi et surtout une augmentation du ticket moyen et des nombres de commandes de leurs clients en fluidifiant tout le parcours de commandes.
Et là, vous avez des clients, ça s'est élargi, hein. Vous avez des demandes qui n'étaient pas prévues initialement.
Exactement. Et alors, avec cette crise du Covid. Alors, on a eu en fait énormément de demandes maintenant de tout autre type d'établissements, comme des stades de foot qui veulent permettre aux clients de commander depuis leur siège, des pompes à essence qui veulent éviter les contacts à l'intérieur des boutiques. On a été contacté par des salles de théâtre, par des établissements vraiment de tout type, des casinos de tout type, qui veulent maintenant digitaliser leur parcours de commande pour offrir en fait une offre sans contact à leurs clients.
Raphaël, en fait, comment est-ce que vous avez modifié votre système, en fait ? Comment est-ce que vous l'avez adapté à la crise ?
Alors, notre système, on a surtout adapté en fait les opérations et l'accompagnement autour. C'est-à-dire que notre système, il était déjà complètement sans contact. Alors, on ne l'a pas créé pour ça initialement, mais il permet donc d'éviter tous les contacts avec les menus papier, les moyens de paiement, etc. Et donc, on a vu une demande qui a commencé à affluer de toute la France de manière extrêmement brutale. Et donc, ce qu'on a adapté énormément, c'est notre processus opérationnel. Initialement, on accompagnait beaucoup les établissements sur place et on s'est rendu compte qu'en quelques semaines, la mentalité a énormément évolué et on est capable d'installer et d'onboarder des établissements dans toute la France en leur envoyant tout à distance. Et c'est vraiment ce point qui a changé en 3 semaines pour nous, où on est passé d'un développement ville par ville un développement global à l'échelle nationale et très, très rapidement à l'échelle européenne, puisqu'on commence déjà à être contacté par la Belgique.
Riyad, je suis sûr que ça vous parle, ce genre de solution.
Ouais, c'est évidemment très malin et c'est d'autant plus à propos dans ces temps de mesures sanitaires. Le fait de digitaliser un menu, enfin de digitaliser de la prise de commande jusqu'au paiement, c'est tout à fait astucieux, c'est tout à fait malin. Donc, de ce que je comprends, vous fournissez cette brique complètement à vos clients professionnels et vous gérez tout, le paiement et tout ça, et à la fin vous leur faites un virement à eux, c'est ça ?
Exactement. Alors non, justement, ça c'est une des choses aussi qu'on a adapté. C'est bien de le souligner. On fonctionnait comme ça jusqu'à il y a encore quelques mois. Mm-hmm. Et là, on s'est dû, vu le nombre de demandes et d'installations qu'on a dans les quelques semaines à venir, de les laisser totalement autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre compte bancaire qui leur permettent de recevoir leurs recettes au quotidien. Et donc, on n'a même plus d'intervention sur la partie financière, en fait.
D'accord. Ça leur coûte combien aux restaurateurs ? Et ça leur coûte combien au commerce ? Enfin, c'est quoi votre modèle économique ?
Alors nous, c'est vraiment très simple. C'est un petit frais d'installation et ensuite un abonnement mensuel qui va dépendre en fonction du...
Voilà. Alors le petit, c'est quoi ? Le petit, c'est quoi ? Et l'abonnement, c'est combien ?
Alors, ça va dépendre vraiment. Donc, parce qu'on a aussi développé, donc si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, on a développé une offre aussi beaucoup plus light qui permet simplement...
Non, mais les ordres de grandeur, c'est que les auditeurs puissent dire.
Autour de 79 € par mois. Va démarrer autour de 79 € par mois. Et ça va permettre de prendre en compte la vente sur place, bien sûr, avec retrait au comptoir et ou service à table, puisque chaque QR code sera différent et donc on saura d'où la commande a été prise, mais aussi la vente à emporter, en plaçant un QR code devant l'établissement pour éviter tous les contacts et interactions à la sortie de crise, mais aussi en click and collect, en mettant cette brique sur les sites internet. Et donc, ça permet de couvrir tous les canaux de commandes et de paiement.
Et alors, pour couvrir tous ces canaux, hein, vous nous dites qu'en 3 semaines, le développement a été exponentiel, hein, ça a été brutal. Je crois que vous recrutez une personne par semaine, là.
Exactement. Là, ça fait 3 semaines qu'on voit au moins un nouvel arrivant chaque lundi.
Donc nous, pour nous, c'est génial parce que ça nous permet d'agrandir l'équipe. Et là, c'est que le début. Hein. C'est-à-dire que là,
ça
on a beaucoup de recrues qui sont prévues dans les semaines à venir. On fait partie de ces secteurs qui ont reçu un impact positif de cette crise.
Et vous créez de l'emploi, et c'est bien de le signaler aussi, parce
Exactement.
Que voilà, il y a beaucoup d'emplois détruits en ce moment, mais il y a aussi, et c'est le revers de la médaille, des créations d'emplois dans d'autres secteurs, Elisabeth.
Tout à fait, et je crois que vous avez levé juste avant la crise près de 500 000 euros, et ça va, vous avez encore besoin, là en ce moment vous allez vous développer encore plus.
Alors oui, exactement, on était parti pour, si vous voulez tout savoir, pour faire une levée qui allait être plus conséquente. Vous avez dû suivre que l'actualité financière et de l'investissement a été un peu troublée au début de cette crise. Donc ce qu'on a décidé de faire au vu du nombre de demandes et qu'il fallait qu'on avance, c'est de closer notre petit tour de table à 500 000 euros. Mais on est en train de préparer d'ores et déjà un
Donc
tour
de le boucler,
plus
hein.
conséquent pour la fin 2020.
Il vous faut combien de clients pour être rentable ? Il vous faut combien de clients pour être rentable ?
Pardon. Alors, sur la partie technique, c'est vrai qu'on a investi beaucoup de recherche et développement, donc il va falloir l'amortir sur quelques centaines de clients, mais notre modèle est déjà rentable structurellement, c'est-à-dire qu'en termes de ce que nous, le modèle est déjà rentable opérationnellement. C'est-à-dire qu'on a juste une partie technique et de recherche et développement à amortir, mais sinon, il est rentable.
Vous nous donnez évidemment des nouvelles hein, de ce développement qui va se faire au niveau européen et probablement mondial. Merci d'avoir été avec nous pour nous présenter cette solution. 13h28.
Europe 1.
Le bâtiment est un secteur vital pour l'économie française, a dit Bruno Le Maire lundi dernier. Comment le faire redémarrer ? Le secteur s'est remis au travail, vous allez le voir, dans de nouvelles conditions.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Il est 13h30. Le gouvernement a souhaité, hein, vous le savez, un redémarrage rapide de la totalité des chantiers engagés en France. C'est vrai qu'on a coutume de dire chez nous que quand le bâtiment va, tout va. Mais cette fois, le bâtiment a été depuis la mi-mars mis à l'arrêt, hein, comme les autres secteurs d'activité. Or, hier, les trois quarts des chantiers avaient manifestement pu reprendre. Mais il y a des incertitudes. C'est la suite, hein, surtout qui inquiète les artisans, notamment. Néanmoins, dans ce climat de défiance, tout est fait pour que le travail soit assuré dans de bonnes conditions. On va voir ça avec nos invités. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assayag et notre coach Riyad Boulanoir. Nous accueillons ensemble Laurent Léry. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Protectoms. Alors ça s'écrit Protechoms, je le précise. Et vous avez co-conçu avec une autre entreprise, RBL, des visières universelles d'hygiène. Mais alors pas n'importe lesquelles, parce que celle-ci s'adapte justement au casque de chantier. Racontez-moi comment vous est venue l'idée.
En fait, vers le 15 mars, le marché s'est retrouvé en rupture de visière de protection parce qu'il y avait une très forte demande. Et donc, avec Nicolas Masson, le PDG d'Armel Plastique, qui est un expert en solutions de plastique thermoformées, et mes équipes Protectom, on s'est réunis pour voir ce qu'on pouvait faire pour couvrir un besoin qui était urgent et imminent. Et donc, on a mis au point une visière universelle à base de PET, pour employer un terme technique.
Ouais.
Et pour couvrir tous les besoins, en fait, on a eu l'idée de co-concevoir un clips qui viendrait s'adapter de manière simple sur des visières de casque de chantier, sur des casquettes de sécurité, voire même sur des casquettes tissu, de manière à ce que la personne puisse se protéger de la première barrière de contamination, en l'occurrence le postillonnage. Et donc l'idée est partie de cette réflexion. On a mis au point ce produit en 10 jours. Et nous avons commencé à le commercialiser dès le 1er avril. Pour couvrir tous ces besoins dans le bâtiment, dans le TP et d'autres activités complémentaires.
Oui, alors ce sont les entreprises du bâtiment qui sont venues quand même vous dire ce serait bien que vous réfléchissiez à quelque chose, ou c'est venu tout seul ?
C'est ça, l'origine c'est ça en fait. C'est que les majeurs du bâtiment nous l'ont contacté pour nous demander si on avait des solutions adaptées puisqu'on se retrouvait en rupture d'un produit nécessaire à l'activité. Et donc, pour être précis, on a fabriqué cette visière de manière un peu plus légère qu'une visière habituelle selon une norme bien précise qui est la EN166, tout simplement. Et donc, on a adapté ça à une visière d'hygiène. Et donc, l'innovation, c'est qu'elle puisse s'adapter à n'importe quel type de casque, en fait, tout simplement.
Oui, n'importe quel type de casque. Et alors, ça a très, très bien marché. Vous en avez vendu, je crois, déjà 1 million, même un peu plus.
Ouais, on a distribué un peu plus d'un million de visières en un mois. Alors pas seulement dans le BTP évidemment, hein, mais dans toute activité où en fait par moment le masque est difficilement supportable, hein, et donc on peut allier et le masque et la visière ou simplement la visière de manière à respirer normalement, hein, quand on est en surchauffe, hein, entre guillemets, dans son activité professionnelle.
Riyad, qu'est-ce que vous en dites de cette innovation?
Ah, moi, je dis que c'est top. Je trouve que c'est le côté positif des crises. Il a réussi à faire en 10 jours et à commercialiser en moins d'un mois quelque chose qu'il a vendu à 1 million d'unités. Je pense qu'avant la crise, il aurait pronostiqué 1 an de développement avec des investissements massifs. C'est cette naissance de nouveaux besoins, cette nécessité d'urgence fait qu'on devient super créatif et qu'il a réussi un tour de force incroyable. Bravo, hein, vraiment félicitations, hein, bien sûr.
Ouais, d'autant que c'est un secteur important, le bâtiment, ça a l'air de rien, mais Elisabeth, quand on regarde les chiffres, on se dit que c'était pas simple de faire redémarrer la machine avec toutes ces nouvelles normes.
Non, c'était pas simple, hein, parce que c'est un secteur qu'on attend avec impatience, parce que comme vous l'avez dit au début de l'émission, quand le bâtiment marche, tout marche. 72% de l'activité a repris, ce sont 2 millions d'emplois et ça représente 5% de l'économie française. C'est un secteur qui n'a pas attendu le déconfinement pour se remettre en marche. Ça a été compliqué, il a été arrêté à 80% à partir du 17 mars. Petit à petit, il commence à reprendre un rythme normal, mais les précautions sanitaires sont contraignantes, les livraisons sont retardées, il y a des projets qui sont annulés, et une nouvelle organisation, et c'est ce que nous sommes en train de découvrir, a été mise en place pour justement respecter ces gestes barrières ainsi que les préconisations du gouvernement.
Alors vous restez avec nous, on va accueillir Jean-Philippe Panager qui est cofondateur de Kid. Alors on dit .42 je suppose, bonjour.
Bonjour, la société s'appelle KID42 et le dispositif s'appelle KID42.
Le dispositif s'appelle KID42, KID42. Il y a un point entre les deux. Vous avez conçu ce dispositif d'aide à la distanciation sociale, c'est bien ça?
C'est absolument ça. En fait, c'est un dispositif que nous, on déploie sur des chantiers depuis 2016. Alors, pas forcément, pas du tout pour gérer à la base la distanciation sociale.
On vous entend très très mal. Hein. J'aimerais bien que vous vous déplaciez un tout petit peu. Je ne sais pas si vous êtes en main libre, mais la liaison n'est pas géniale. Alors, bon, c'est les aléas du direct. Allez-y.
Ouais.
On vous écoute.
Oui, allô?
Oui.
Vous m'entendez bien?
Pas tellement, mais allez-y, on va refaire un essai.
Très bien. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on nous on développe des solutions pour gérer la distance entre des risques et des personnes sur des chantiers. Et donc concrètement, on place des capteurs sur des engins, sur des grues. Ça nous permet d'alerter les opérateurs quand ils sont dans des situations de danger. Et donc on a adapté ce dispositif-là pour gérer la distanciation sociale et pour aider à l'acquisition de ces fameux gestes barrières en tant qu'automatisme.
Donc on clip à la ceinture ou ailleurs un boîtier, un petit boîtier, et quand on s'approche d'un peu trop près, il va envoyer une notification lumineuse et sonore, c'est ça?
C'est exactement ça, on peut le mettre sur un casque, on a des mousquetons pour le mettre à la ceinture ou dans une poche. À partir du moment où deux porteurs vont se rapprocher d'une distance qui va être paramétrée, donc un mètre, mais ça peut être un mètre et demi, deux mètres en fonction de ce que nos clients souhaitent, les dispositifs vont se mettre à sonner et à émettre un signal de lumineux absolument.
Ouais, c'est malin ça aussi, hein, Riyad.
C'est super malin. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai regardé parce que ça ressemble à un porte-clés. Je me suis dit, il faudrait quasiment une version grand public, que tout le monde ait ça, et comme ça, on a une distanciation qu'on s'impose de façon complètement discrète, quoi, sans être obligé de mettre des repères. Mais effectivement, c'est très très malin, quoi.
On reste ensemble et on continue à regarder de près comment le bâtiment s'adapte à cette crise. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Comment faire intervenir plusieurs corps de métier sur un même chantier, faire respecter les mêmes règles à tous? Vous allez voir qu'il est possible d'apporter des réponses communes.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h41 sur Europe 1. Quand un chantier redémarre, il y a forcément plusieurs corps de métier qui se croisent. Et si chaque entreprise a pris soin de mettre un protocole de sécurité en place, ça devient plus complexe, hein, c'est vrai, quand il faut jongler avec différentes équipes. Bonjour Jérémy Magalès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Batilife, qui fabrique des logiciels et des applis pour les entreprises du bâtiment. Vous avez créé du coup une appli dédiée, CovCheck Chantier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle intègre de c'est particulier ça.
Alors, l'entreprise s'appelle Batifile, B-A-T-I-F-I-L-E, que vous pourrez trouver sur batifile.com. On a développé CovCheck Chantier, qui est destiné aux entreprises du bâtiment pour leur faciliter la vie, leur permettre de mieux s'organiser à travers leurs opérations, et aussi de leur faire gagner un temps précieux pour les plus petites et plus modestes entreprises qui n'ont pas forcément les capacités administratives et organisationnelles qui sont impératives pour reprendre leur chantier.
C'est-à-dire que vous intégrez des dispositions particulières à l'intérieur de l'appli pour qu'elle puisse justement reprendre de manière sûre ?
C'est ça, tout à fait. Alors, c'est divers dispositifs qui permettent à la fois de s'assurer de la santé des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi des personnes chez qui on va intervenir dans le cadre d'un chantier particulier. Ça se traduit à travers différentes checklists qui permettent de faire un point sur chacun des événements. Ça permet aussi de dématérialiser les documents qui existent et qui sont mis à disposition par des organismes comme l'OPP-BTP, oui, qui est la référence en sécurité sur les chantiers. Ça permet aussi d'avoir toutes les informations et documentations directement dans le téléphone et dans la poche pour savoir comment procéder et quoi faire. Et toutes ces choses-là sont assurent la traçabilité des actions qui sont menées par l'entreprise.
Oui, alors traçabilité, et vous êtes déjà, je crois, à plus de 200 entreprises et 400 utilisateurs, ce qui signifie que ça fonctionne, hein, que ça les aide véritablement quand ils arrivent sur un chantier.
Alors tout à fait, il y a aujourd'hui pas loin de 300 entreprises maintenant et plus de 500 utilisateurs. On a aussi des réglementations qui évoluent, donc un outil qui évolue et qui s'adapte en fonction des nouveaux éléments et des nouvelles façons et procédures, modes opératoires qu'il faut mettre en œuvre afin de s'assurer de la bonne faisabilité des choses. C'est aussi un outil qui a permis à plusieurs entreprises au quotidien, maintenant, qui permet aussi aujourd'hui à plusieurs entreprises du quotidien de s'organiser à travers leurs tâches spécifiques liées à ce contexte particulier.
Elisabeth, il existe aussi une autre appli, je crois, dédiée aux professionnels qui travaillent sur les chantiers que vous avez trouvé.
Oui, elle s'appelle WIZCAD, W-I-2-Z-C-A-D. Ils ont lancé une appli dedans qui s'appelle Reprise Chantier. Les utilisateurs ont un référentiel officiel de santé sur lequel ils peuvent s'appuyer pour organiser leur propre chantier. L'appli propose aussi un questionnaire qui permet de définir si un employé est apte ou non à travailler sur un chantier. Et c'est aussi une application qui est conçue pour garantir en temps réel la sécurité de tout le personnel sur les chantiers pour accélérer cette reprise tant attendue. Déjà 7000 chantiers y sont inscrits en 3 semaines seulement.
Riyad, on voit que le secteur du bâtiment s'est vraiment mis à la page pendant cette crise sanitaire. C'en est un exemple supplémentaire. Et très vite.
Ouais. Et très très vite. Et là, on voit un exemple typique de ce qu'on appelle la legal tech, c'est-à-dire finalement la tech au service de la législation, qui sert la législation. Et là, voilà, les applications, si elles trouvent clients, c'est qu'elles doivent sûrement remplir leurs besoins. Donc effectivement, on voit que ça se modernise tout d'un coup. Tout devient dématérialisé. Il y a une nouvelle page de l'économie qui est en train de s'ouvrir, c'est clair.
Oui, une nouvelle page qui s'ouvre et qui s'ouvre aussi avec notre prochaine invitée. On va retrouver Lionel Gossel, spécialiste du chauffage et de la plomberie. Bonjour.
Bonjour.
Patron du groupe éponyme, vous avez avec vos équipes, vos dépanneurs, mis au point des protocoles d'intervention. Vous avez créé en interne votre propre appli qui s'appelle Soli pour l'adapter aux interventions, c'est-à-dire l'appli, elle fait quoi exactement?
Soli, c'est une start-up, c'est 88 tech, donc c'est un peu, on va dire, le pendant de ce qu'on vient d'entendre. Oui. Mais j'ai créé moi-même en interne, donc nous on est 270 dans mon groupe, et je trouvais pas il y a 6 ans donc de logiciel d'intervention pour nos ouvriers. Donc en gros, c'était assez simple. Le rapport de l'ouvrier était devenu très important pour la facturation, pour la sécurité, parce que on parle de sécurité, mais il faut pas oublier qu'il y a 6-7 ans, on nous a mis l'amiante aussi dans le bâtiment, où il a fallu sécuriser nos compagnons. Donc c'était déjà un point, là on parlait déjà de masques, de sécurité, de sous-section 4, donc c'était des documents obligatoires qui étaient déjà destinés à être donnés aux ouvriers, donc le côté administratif était devenu très très important. Donc je trouvais pas le logiciel et j'ai développé donc avec une start-up qui s'appelle 90Tech, un logiciel d'intervention destiné à l'ouvrier. Alors nous on a vraiment pensé ouvrier, parce que l'ouvrier, moi je le vis au quotidien, c'est quand tu dépannes un WC, que tu mets la main dans le WC, c'est compliqué d'avoir un logiciel, un téléphone, on va dire simple. Donc on a pensé vraiment à une application le plus simple possible et le plus...
Pour qu'il intervienne dans des conditions de sécurité maximale avant, pendant et après, hein, c'est ça?
Voilà. Donc le discours il est assez simple, c'est on oblige de faire des photos avant, on oblige de faire des photos après, on oblige de se mettre en sécurité avant. Donc là on a une côté obligatoire, donc il n'a pas le choix. Donc c'est un peu une formation perpétuelle. Et à n'importe quel moment, il peut faire une interruption aussi et arrêter s'il sent qu'il est en danger. Voilà. Donc nous, avec le Covid, très simplement, on a modifié le type d'intervention parce qu'il est hyper adaptable et on l'a adapté à la réglementation de l'OPBTP. Donc instantanément, en 3-4 heures, on a mis tous les points nécessaires que l'OPBTP nous a imposés, on va dire.
Mais vous avez notamment autorisé, ça c'est aussi une avancée, pour éviter le contact avec le client, vous avez développé la signature vocale.
Ouais, voilà, on a simplement rajouté la signature vocale pour... c'est-à-dire qu'on a toutes les 10 questions obligatoires à l'OPBTP qu'on échange avec le client. Donc ça c'est fait... Alors déjà, c'est 10 questions obligatoires qui est fait déjà en amont à la prise de rendez-vous par l'opératrice. Et après, il y a les 10 questions pour l'ouvrier qui doit checker, voir s'il a de la fièvre ou pas à chaque intervention. Voilà. Mmh. Et après, par rapport au type de locataire ou de propriétaire, s'il y a des personnes à risque, des personnes qui ne sont pas à risque ou des personnes même qui ont le Covid, le type d'intervention, il est complètement différent. Donc, en checkant sur personne à risque, il va devoir suivre un mode opératoire complètement différent. Et à la fin, bien sûr, interdiction de donner le téléphone. Mais nous, on est obligé de remonter une preuve à notre client pour dire qu'on a bien travaillé. Donc, on fait nos photos avant, nos photos après, notre intervention. Et la signature, ben, simplement, on demande aux gens de faire une signature vocale. Donc, on enregistre, l'intervention s'est bien passée. Je m'appelle monsieur, madame, j'appuie. Voilà.
On se modernise, hein, Riyad. Hein, on l'a vu avec les solutions précédentes.
Distanciation sociale, la tech a toute sa place. Là, la tech a toute sa place, donc tout ce qui se fait sans contact, à distance, signature vocale, où on limite les contacts et les interactions, effectivement, la tech, là, elle y répond parfaitement. Quoi.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé autre chose, tiens, pour respecter cette fameuse distance, c'est la chaussure de sécurité connectée.
Oui, ça c'est vraiment bien. C'est Intellinium qui a créé la chaussure de sécurité connectée. Ce sont des chaussures intelligentes qui ont été mises au point et elles permettent aux ouvriers d'envoyer de recevoir des alertes. Enfin, les ouvriers reçoivent et envoient des alertes sur des sites industriels ou sur des chantiers de construction, même les mains occupées. C'est quand même, c'est ingénieux, quoi.
Et oui, on n'arrête pas le progrès, y compris dans le bâtiment. Merci à tous d'avoir été en direct avec nous pour ce dossier consacré à la reprise des chantiers. 13h49, la France bouge continue.
Europe 1.
Avec un nouveau rendez-vous, le coup de main de la France bouge avec la CCI France. Vous avez besoin d'aide, on est là pour vous.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Chaque jour, nous allons étudier un dossier. Si vous êtes artisan, commerçant, start-upper, patron de TPE, de PME, que vous n'avez pas les réponses à vos questions, que vous ne savez pas où aller chercher des conseils, que vous avez des difficultés, vous nous écrivez e1-lafrancebouge@europe1.fr et on fera notre possible pour vous aider avec Nathalie Carré qui est avec nous et qui nous rejoint jusqu'à la fin de la saison. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Nathalie,
bonjour
Nathalie. Qui va étudier de près
bonjour Isabelle.
Les dossiers en amont chargés de mission entrepreneuriale à CCI France. Et aujourd'hui, c'est Georges qui est en ligne avec nous. Bonjour Georges.
Oui, bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez ouvert 16 magasins de chaussures en 20 ans, un site web de vente en ligne. Vous avez rentré toutes vos collections en février et vous vous retrouvez évidemment en ce moment avec tout le stock.
Oui, tout à fait.
c'est bien la problématique, on va dire, de toute la profession, que ce soit, je pense, dans le prêt-à-porter ou nous, dans la chaussure, on a des stocks qui sont très, très importants. On a rentré toutes nos collections au mois de février, 15 février, entre le 15 février et le 15 mars, tout était rentré. Nous, à notre niveau, c'est un peu plus d'un million d'euros de stocks qui sont rentrés. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, avec la crise sanitaire et la fermeture des magasins, et ben, on est dans une impasse économique et financière parce qu'on se retrouve avec un stock extrêmement important dont on n'aura pas l'écoulement là maintenant sur le mois de mai ou sur le mois de juin ou le mois de juillet en fonction de la date des soldes. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Nathalie, pour aider Georges, justement ?
Alors, on va déjà éviter les solutions miracles parce que bah, je suis pas sûre qu'il y en ait. Ça dépend quand même pas mal de ce qui est vendu. Le premier point, peut-être effectivement, Georges, c'est la date des soldes. Donc, vous savez qu'il y a des négociations pour les reporter. L'autre élément qui va être important, et là je parle en tant que femme. C'est où on va partir en vacances et quand on va pouvoir commencer à réserver ses vacances. Vous savez bien que quand on fait les soldes ou quand on achète en mai-juin, c'est pour nos vacances, pour être belle pour nos vacances. Donc voilà, donc en fonction d'effectivement si on va partir en vacances ou pas et où, c'est possible que ça relance la consommation. Après, il y a un vrai enjeu également de sécurité du côté du magasin. C'est vrai que c'est assez peu agréable en fait de faire les boutiques et de flâner quand on a un masque sur le nez, qu'on doit constamment se nettoyer les mains, etc. Donc il faut voir comment vous pouvez proposer le parcours client le plus agréable pour permettre à vos clientes de flâner en étant quand même rassurées. Donc ça, c'est un peu du yaka faucon, mais effectivement, pour l'avoir testé ce week-end, c'est vraiment pas agréable on prend pas beaucoup de plaisir à essayer, à se faire plaisir avec un truc sur le nez. Ensuite, j'ai vu que vous aviez effectivement un site de vente en ligne. Alors aujourd'hui, je connais pas la situation financière de votre entreprise, évidemment. Maintenant, vous avez un choix à faire entre écouler le stock ou conserver vos marges. Je regardais un peu rapidement ce matin et c'est vrai que vos chaussures sont plus chères sur votre site que sur d'autres sites multimarques que je ne citerai pas, les grandes plateformes connues. Donc il y a peut-être à multiplier vos canaux de vente en passant par ces grandes plateformes qui ont une communication qui est intense. Et là, malheureusement, je crains que vous ne deviez passer par des promos assez importantes. Alors, il y a peut-être une promo qui peut être intéressante, et c'est vous en tant que chef d'entreprise qui décidez, mais il y a quand même beaucoup de Français qui ont été touchés par les soignants, par ce qui s'est passé, par certains qui ont perdu leur job et qui ne le retrouveront pas. Et vous pouvez peut-être imaginer une promo avec un don, c'est-à-dire une paire achetée, une paire offerte à quelqu'un qui a souffert éventuellement du Covid. Vous avez des structures qui font ça, comme donsolidaire.fr ou adnfrance.org. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'écouler vos stocks. Et la marge, bah, ça sera pour plus tard. Mais au moins que vous puissiez faire entrer de la trésorerie et écouler les stocks.
Alors, est-ce que c'est une piste à laquelle vous avez songé, Georges ?
Je dirais que oui et non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, entre autres, sur Internet, c'est vraiment une jungle sans foi ni loi, parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout à tous les prix. Nous, on va dire qu'aujourd'hui, sur notre qualité de la distribution, on a des produits essentiellement, entre guillemets, de marque, dans lesquels, généralement, les prix sont tous les mêmes, que ce soit en magasin ou sur Internet, parce que les gens pensent que c'est moins cher sur Internet, sur les marques, mais je suis désolé, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on va être obligé de rentrer dans une logique de promotion, mais c'est pas notre vocation, parce qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de dégager certaines marges. Si on a déjà une baisse de chiffre d'affaires et une baisse de marge, là, on va prendre de plein fouet la baisse de la rentabilité. Et aujourd'hui, comme beaucoup de chaussures, on a été obligé de faire un PGE assez important. Mm-hmm. Et on devra quand même dans un an rembourser cet emprunt. Donc c'est vrai qu'à aujourd'hui, on a cette problématique-là. Je dis pas que d'accompagnement des aides qui ont été faites, parce que des aides elles ont été réactives, elles sont à la hauteur. Il y a certaines professions qui ont des aides un peu plus importantes, mais tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que nous je sais que toute la profession a cette problématique là de supporter financièrement ce stock, et c'est quelque chose qui est énorme.
Nathalie, d'un mot.
C'est vrai que le problème chez vous, c'est que vous êtes contraint par les saisons. Et donc, vous ne pouvez pas stocker. Oui. Alors après, il y a des marques, effectivement, enfin, je ne citerai pas, mais qui sont intemporelles. Il y a des baskets en toile qui sont intemporelles.
Bien sûr.
Vous pourriez éventuellement ressortir l'année prochaine. Mais pour beaucoup, on est quand même sur de la tendance. Alors les sneakers, peut-être un peu moins, mais on est quand même sur de la tendance. Donc c'est vrai que c'est un arbitrage, et je ne peux pas le faire, je ne connais pas la structure financière de votre entreprise, mais c'est un arbitrage aujourd'hui là, entre trésor et marge. Et redonner confiance, redonner envie à la clientèle de revenir chez vous. Donc c'est vrai que l'arbitrage il est compliqué, mais j'ai envie de dire c'est le pire ou le moins pire. Il n'y a pas de solution miracle.
En tout cas il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des pistes, Georges, et ça reste important qu'il y ait des choses ouvertes pour peut-être continuer à avancer et sauver effectivement votre commerce et tous ceux qui sont dans la même situation que vous. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Georges. Merci à Nathalie qui est chargée de mission entrepreneuriat à la CCI France. Riyad, on se retrouve dès demain. Riyad Boulanoir, notre coach. Même chose pour vous, Elisabeth. On se dit à demain, évidemment, sur Europe 1.